Rav Tov, bonsoir à tous. Et Rav Cherki, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien?
Absolument, oui. Vous me recevez?
Super. Baruch Hashem. Alors, je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Brit Olam. Déjà près de plus de 10 ans. Je suis passé sur votre site il y a quelques minutes. Il y a, plus d'une dizaine de langues où vous travaillez. Avant de vous donner la parole sur le thème, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une petite anecdote ou quelque chose qui vous a touché ces derniers jours, derniers mois, un mail dans votre travail en temps avec les Bnei Noir?
Ben c'est oui, on n'arrête pas de recevoir des nouvelles assez surprenantes de semaine en semaine. Par exemple, il y a quelques semaines, en Amérique du Sud, a été fondée une école primaire pour Noir Kids. C'est assez extraordinaire. C'est une initiative venue entièrement de Noir Kids de Colombie, et ça résonne maintenant, ça rayonne sur toute l'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Comme tant d'autres, je ne peux pas me retenir, je vais vous dire simplement que j'ai reçu une question de l'île de Sakhaline. Vous savez où c'est? C'est au nord du Japon. C'est une île qui a été partagée entre le Japon et la Russie. Enfin, c'est le bout du monde, quoi, vraiment le bout du monde, près du détroit de Bering. Alors, un Noahide me dit, voilà, je suis en train de construire ma maison et j'ai découvert que dans les fondations, il y a non seulement des restes d'un temple bouddhiste japonais, mais qu'il y a également de la cendre de la crémation des moines qui étaient là-bas. Est-ce que j'ai le droit de construire sur cet emplacement? Vous voyez, donc c'est absolument incroyable ce genre de questions halakhiques que nous recevons du monde entier.
Merci beaucoup Rav Cherki. On est plus de 80-90 personnes à vous suivre sur Zoom et YouTube. Ce soir, vous allez nous parler justement du Beit Hamikdash et des nations. Bechavod.
Ah, merci beaucoup. Et bon, je tiens à saluer ici le Rav Moshe Levin qui m'a très bien, très très gentiment et affectueusement reçu lors de mon voyage dans sa communauté au Rinci. Et je suis très très heureux de rencontrer tout ce beau monde à qui je ne peux pas dire bonjour individuellement à chacun. Et donc, je félicite à nouveau Johan de cette initiative et de tout ce que vous faites. Et nous allons passer directement au sujet, le Beit Hamikdash et les nations. Alors, le Beit Hamikdash, comme vous le savez, est un des commandements de la Torah. Il faut construire une demeure pour la présence du Créateur, pour rencontrer Dieu, pour faire des sacrifices. En quoi est-ce que ça concerne les nations du monde? Surtout que si, imaginez que, je ne sais pas, si le gouvernement israélien décide de construire le Beit Hamikdash, imaginez les réactions d'animosité énorme que cela peut créer dans l'humanité toute entière. Mais en tout cas, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que nous proposons aux nations. Tout d'abord, je voudrais me référer ici à une pensée de Blaise Pascal, grand philosophe et scientifique français, grand chrétien, qui dans ses pensées dit l'existence du peuple juif m'intrigue. Elle m'intrigue parce que, alors il amène toute une série de raisons, mais une des raisons qu'il amène, il est intrigué par l'existence du peuple juif, parce que si jamais la divinité s'est communiquée aux hommes, c'est à eux qu'il faut se faire la référence pour en recevoir, il faut se référer pour en recevoir la tradition. C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir que le peuple d'Israël est considéré par Blaise Pascal, qui probablement n'a jamais rencontré de juifs, comme étant, si vous voulez, le haut-parleur de la parole du Créateur. Ça, c'est très important parce que, effectivement, cette parole a été interprétée différemment par la tradition chrétienne et encore plus par la tradition musulmane. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance de la dette qu'ont les nations envers Israël en tant que porteur d'une parole. Effectivement, quand vous regardez dans le livre d'Isaïe, quand il est dit que viendra un jour où les nations monteront à la montagne de Jacob pour recevoir les enseignements du Dieu d'Israël, eh bien, il est dit, Kimitzion, c'est eux qui le disent, Kimitzion, etc., ou Dvar Hashem Yerushalayim, c'est de Sion que sort une loi et de Jérusalem, la parole de Dieu. C'est-à-dire cette idée que, indépendamment des grands développements philosophiques ou scientifiques, etc., il y aurait un rôle du peuple d'Israël de transmettre une parole. Or, cette parole est une parole qui vient, si vous voulez, une parole transcendante. Comme me l'a dit un des dirigeants du mouvement Makoya au Japon, qui m'a dit, vous êtes responsable de la présence, de la transcendance au sein du monde. Très joli comme expression. Je voudrais donner une image peut-être plus simple que je donne souvent quand des goïms me demandent, mais qu'est-ce que vous nous apportez, vous autres, les juifs? Parce que si vous nous parlez des sept lois noachides, ça on connaît, c'est la morale naturelle. On n'a pas besoin de vous pour ça. Et l'image que je donne, c'est celle d'une maison. Le monde ressemble à une maison. Dans cette maison, il y a des habitants. Donc si le monde a des habitants, ce sont les hommes. Et toute maison a un toit. Le toit est très important parce qu'il protège. Il protège de la chaleur, il protège de la pluie. C'est très important d'avoir un toit. Eh bien, le monde a un toit. Le toit, c'est la nature. La nature nous protège d'une rencontre directe et totale avec l'infini, avec Dieu. C'est effectivement assez dangereux d'être face à face à la divinité sans écran. Donc, le bon Dieu a décidé de nous donner un bon écran, un toit pour la maison, c'est la nature. Mais une maison entièrement fermée est insupportable. Il faut une ouverture, il faut une cheminée. Si vous voulez, la cheminée est entretenue par le peuple d'Israël. Nous sommes les ramoneurs des cheminées du Seigneur. Ce qui explique que nous sommes parfois pas très présentables, un peu sales, parce que quand vous nettoyez une cheminée, ça pose des problèmes. En tout cas, c'est ça que nous amenons au monde. Et en fait, c'est tout le problème de savoir est-ce que nous vivons dans un monde fermé ou dans un monde ouvert. Par exemple, si je prends ici l'image du monde tel que se le représentait le philosophe Spinoza, eh bien, le monde est pour lui une entité entièrement fermée sur elle-même, dans laquelle on peut tout expliquer, y compris Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu fait partie du grand schéma. Ah, Yosef raised the hand. Très bien, oui, d'accord, mais est-ce qu'il veut dire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre par chat, c'est encore plus simple. Je crois. Ah, d'accord. Bon. Donc, pour Spinoza, le monde est entièrement expliqué. Un monde dans lequel il n'y a finalement pas de surprise. C'est un monde parfait, mais qui ne se perfectionne pas, qui n'évolue pas. Tandis que le monde, ça ressemble un peu, disons, au monde d'Ésaü. Vous savez, Esav dans la Torah est celui qui reçoit tout à la fois. Mishmane ha'aretz yemoshavecha umital ha'shamayim me'al. Tu reçois les terres grasses, tu reçois la rosée du ciel, tout est donné en une fois. Tandis que la bénédiction de notre ancêtre Yaakov, c'est V'iten lecha Elohim ital ha'shamayim mishmane ha'aretz, c'est que Dieu te donne petit à petit de la rosée du ciel et du gras de la terre, et ça n'en finit jamais. Eh bien, on peut dire que c'est ça que représente cette cheminée que nous ouvrons dans le monde. Le monde n'est pas fermé, c'est un monde ouvert. Or, cette ouverture, son lieu idéal, c'est effectivement le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? C'est le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre, tout d'abord, entre le Créateur et la créature. Ce qu'on appelle le Panim El Panim, la face à face, le visage face à un autre visage. Eh bien, ça vient régler un problème assez important qui aujourd'hui déchire l'humanité. C'est le conflit de valeurs qu'il y a entre l'Occident et le monde islamique. Pour le monde occidental, ce qui est au centre du monde, c'est l'homme. À la limite, on pourrait dire que Dieu est à la périphérie, dans la mesure où il existe. Et donc, c'est un héritage qui vient de la philosophie grecque, qui est que c'est l'homme qui est au centre de tout. Or, dans le monde musulman, c'est une évidence que ce qui est au centre de tout, c'est Dieu. Et l'homme doit se soumettre. Comment réconcilier ces deux idéologies? Eh bien, tout simplement, à travers le judaïsme. Dans le judaïsme, nous ne parlons ni de la centrale. Ce qui est au centre du monde n'est ni Dieu lui-même, ni l'homme. Ce qui est au centre, c'est la rencontre. C'est-à-dire, il y a une invitation à la rencontre de l'homme et de Dieu, une participation à l'œuvre de la création, ça s'appelle Shutaf Lema Sebereshit, et le lieu où cette rencontre est possible, ce lieu où cette rencontre est réalisable, c'est effectivement le Beth Amikdash. J'ai connu un grand homme du nom de Günther Gottschalk, vous comprenez tout de suite que c'est un Allemand, qui est devenu noachide après la Shoah, et qui m'a dit, il m'arrive de temps en temps de me rendre au Kotel à Jérusalem. Et là-bas, je dis au Créateur du monde, n'oublie pas que tu as promis que si un étranger viens t'implorer dans ce lieu, eh bien, tu feras tout ce que te demandera l'étranger. C'est décrit dans la prière que prononce le roi Salomon lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Et donc, Günther Gottschalk disait à Dieu, puisque tu as promis de réaliser mes demandes, eh bien, je viens te demander que tu me donnes la force de bénir ton peuple. Voilà, c'est tout ce qu'il demandait. C'est-à-dire, il y a cette conscience qu'on peut voir chez ceux qui viennent de l'extérieur, que c'est le lieu de la révélation, que c'est le lieu de la rencontre. Et donc, c'est tellement important pour eux. Le Talmud nous dit d'ailleurs que si les nations savaient à quel point le Beth Amikdash est important pour eux, puisque c'est le lieu de l'expiation de tous les péchés de toute la terre, puisque c'est là qu'on présente les 70 taureaux lors de la fête de Sukkot pour faire l'expiation des 70 nations de la terre. Si les nations le savaient et s'en rendaient compte, ils entoureraient le Beth Amikdash avec des soldats pour empêcher sa destruction. Bon, dans la réalité historique, on voit que ça n'a pas tout à fait marché, mais cette idée existe. N'oublions pas une chose importante, c'est que le Beth Amikdash, à l'époque où il était construit, était considéré comme le domicile, si on peut dire d'une certaine manière, le domicile du Dieu d'Israël. C'est-à-dire, c'est comme ça que c'était ressenti. Si on se demandait, mais qui est le Dieu des Juifs? Eh bien, on disait, c'est celui qui a un temple à Jérusalem. L'adresse est claire, il suffit de se rendre à Jérusalem, on peut rencontrer le Dieu d'Israël. Mais depuis que le Beth Amikdash a détruit, il n'y a plus de référence géographique au lieu de cette rencontre. Et depuis, nous parlons du Dieu d'Israël comme étant le sauveur, celui qui nous a sauvés et celui qui nous sauvera. Gaal Israël. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle l'Ismor Geoula Litfila. On adjoint la prière, la bénédiction de Gaal Israël au début de la Amida pour dire que celui à qui nous adressons nos prières est celui qui dans le passé nous a sauvés et qui dans l'avenir nous sauvera. Mais au temps du Beth Amikdash, la rencontre était une rencontre dans le présent. Or, on peut dire que c'est ça l'aspiration des nations, de savoir que l'histoire a un sens, que Dieu est présent dans son monde. Et c'est ça qui manque quand le Beth Amikdash n'est pas là. Or, le Maharal de Prague pose à ce propos une question très importante. Il dit, c'est très banal, si le Beth Amikdash est important, alors comment est-ce qu'il a pu être détruit? Et s'il peut être détruit, alors peut-être qu'il n'est pas important. Et le Maharal de Prague répond, non, le Beth Amikdash, c'est très important. Le monde ne peut pas tenir sans le Beth Amikdash. Mais il tient quand même parce que le Beth Amikdash a existé dans le passé et qu'il existera dans l'avenir. Donc en fait, on est un peu comme dans un saut sur l'abîme. On prend notre départ dans la première falaise et on va arriver à la deuxième falaise. C'est ça qui nous permet de tenir. C'est-à-dire cette expérience, cette expectative de la reconstruction du Beth Amikdash, c'est ça qui fait tenir le monde. À nouveau, comment est-il possible qu'il soit détruit? En fait, c'est très simple. C'est parce que, dit le Maharal de Prague, il y a une opposition dans le monde entre deux niveaux, ce qu'on appelle la nature et ce qu'on appelle l'ordre. En hébreu, teva et seder. Selon l'ordre du monde, c'est-à-dire l'ordre des valeurs, il est indispensable qu'il y ait le Beth Amikdash dans le monde, qu'il y ait une relation de convivialité, d'amitié entre le créateur et sa créature. Mais la nature s'oppose à ce qui est, disons, exceptionnel, ce qu'on appelle le nivdal. La nature s'oppose à ce qui n'est pas uniforme. Et donc la nature s'oppose au Beth Amikdash, ce qui explique pourquoi il est de temps en temps détruit. On pourrait dire que c'est un peu la construction des différents Beth Amikdash, le premier, puis le deuxième, puis le troisième. C'est une tentative de greffe. On essaye de greffer sur le monde de la nature, quelque chose qui dépasse la nature. Et donc, quand vous essayez de greffer quelque chose, il y a naturellement dans l'organisme un rejet de la greffe. Ce qui explique pourquoi, de temps en temps, le Beth Amikdash subit la destruction. Mais il est fait pour devenir un jour, disons, en harmonie avec le reste du monde. Vous savez que lors de la Révolution française, il y a eu l'invention d'un culte qu'on appelait le culte de l'être suprême. Et ce qu'ont déclaré les conventionnels à ce moment-là, sous l'inspiration de Robespierre, c'est que l'être suprême a pour attribut la vérité et la vertu, et que son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire cette espérance qu'un jour, ce qui se produit dans le Beth Amikdash devienne l'universel. On pourrait dire l'international du Beth Amikdash sera un jour le genre humain, si j'essaie de reprendre certaines expressions bien connues. Et c'est également le lieu de l'unité. En effet, dans le Beth Amikdash, il y a un phénomène qui est, disons, peut-être un peu intriguant pour le moderne, c'est les sacrifices. Mais quel que soit ce qu'on peut penser des sacrifices, il est évident qu'il y a ici une participation du monde animal et végétal à la vie humaine, une sorte de réconciliation entre l'homme et l'ensemble des êtres. L'homme ne vit pas seulement sa vie spirituelle détachée du reste des êtres, mais il le fait avec tout le monde. Alors évidemment, ça demanderait une étude en soi à laquelle l'Ilmod va peut-être se consacrer, de savoir comment est-ce qu'il est possible de faire un culte qui, disons, choque un peu la conscience moderne. Mais en tout cas, cette idée d'unité est tout à fait présente. Or, ce que nous dit le Rav Kook, c'est que lorsque l'unité est réalisée au sein du peuple juif, et cette unité se traduit entre autres par l'existence du Beth Amikdash et tout ce qui en dépend, le Sanhédrin, la royauté, les prophètes, eh bien, c'est le moment où l'universel d'Israël devient possible. C'est là que l'intérêt porté à la culture générale, aux grandes civilisations, devient une partie du projet d'Israël et amène sa bénédiction au monde entier. Et comme je suis respectueux des horaires, je crois que je vais m'arrêter